avec Alliance Vita au service des plus fragiles.
Chers auditeurs, le 18 octobre dernier a eu lieu la journée européenne de la lutte contre la traite des êtres humains. Depuis 2007, à l'initiative de la Commission européenne, cette journée vise à sensibiliser le public et les institutions européennes au problème de la traite des êtres humains, un phénomène qui touche de nombreuses personnes dans le monde, y compris en Europe. Exploitation sexuelle, travail forcé, esclavage, la traite des personnes constitue un crime majeur et une grave violation des droits de l'homme. Chaque année, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants tombent entre les mains de trafiquants dans leur propre pays et à l'étranger. Presque tous les pays du monde sont touchés par la traite, que ce soit en tant que pays d'origine, de transit ou de destination des victimes. L'objectif de cette journée est de mobiliser les gouvernements, les ONG, les organisations internationales et les citoyens pour renforcer la prévention, la protection des victimes et la poursuite des trafiquants. Elle permet de mettre en avant les progrès réalisés et les défis qui subsistent pour éradiquer ce fléau. Alors, pour rappel, au mois d'avril dernier, en 2024, le Parlement européen avait adopté définitivement à une très forte majorité l'évolution de la directive sur la traite des êtres humains. La directive initiale avait été adoptée en 2011. Sa révision, donc 12 ans après, visait à prendre en compte les nouveaux défis et à harmoniser les données. En droit européen, une directive est un acte législatif qui fixe des objectifs aux pays de l'Union européenne. Eh bien, ce texte propose des mesures visant à renforcer le soutien aux victimes et à la lutte contre la traite des êtres humains, et il confirme la criminalisation de l'exploitation du mariage forcé, de l'adoption illégale et de la gestation pour ou par autrui, ce qu'on appelle la GPA. Trois pratiques qui sont donc à pénaliser en Europe. Au lendemain de cette journée du 18 octobre, malgré les histoires touchantes de désirs d'enfants régulièrement exposés dans les médias, il est sans doute utile de rappeler que la GPA fait désormais partie des cas minimum de traite des femmes, que ce soit les mères porteuses ou les donneuses d'ovocytes, mais aussi des enfants, car elle remplit bel et bien certains des critères de la définition établie par la Convention des Nations Unies. Dans cette définition, il est question par exemple de la notion d'enlèvement et de transfert des personnes. C'est bien le cas dans la GPA. Puisque l'enfant est enlevé à celle qu'il a portée durant 9 mois, qui est son seul univers, et il est transféré au commanditaire, en général dans les premières secondes qui suivent la naissance. Ce transfert est l'objet même du contrat. L'enfant est ainsi cédé ou vendu. Certains aiment à penser qu'on pourrait autoriser certaines GPA dites éthiques, mais je rappelle qu'en 2016, grâce à une forte mobilisation de différents acteurs, ainsi que la coalition No Maternity Traffic, dont Alliance Vita était partenaire, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a rejeté une recommandation sur la gestation pour autrui qui aurait ouvert la voie à l'encadrement de certains types de GPA prétendument altruistes versus des GPA lucratives. Au final, le projet de recommandation adopté condamne toutes les formes de GPA sans fausse distinction, car la notion de contrat est le cœur même de cette pratique, qu'elle soit réalisée à titre rémunéré ou non. Dans la définition de la traite, il est également question de la notion d'hébergement sous la contrainte. C'est aussi le cas dans certains pays où les mères porteuses sont hébergées, pour ne pas dire séquestrées, afin d'être surveillées pendant toute la grossesse, dans des structures qui les éloignent le plus souvent de leur famille. Elles sont soumises à des suivis très stricts, à des prises élevées d'hormones qui ne sont pas sans risque pour leur santé. Il y a aussi la notion d'abus d'une situation de vulnérabilité. Les femmes recrutées, comme mères porteuses, sont souvent en situation de vulnérabilité économique et sociale. On n'a jamais vu une femme riche porter un enfant pour le remettre à une personne pauvre. La vulnérabilité de la mère porteuse est le plus souvent la raison qui la pousse à louer son utérus. Par exemple, tout récemment, au mois d'octobre dernier, une entreprise criminelle a ainsi été découverte en Argentine. Elle faisait payer environ 50 000 $ à des couples étrangers pour un bébé né par mère porteuse. Des femmes vulnérables en situation de précarité économique ont été ciblées et recrutées sur les réseaux sociaux. Elles se voyaient offrir 10 000 $ avec une prime allant jusqu'à 2 000 $ si elles accouchaient par césarienne. Toutefois, si jamais la grossesse était interrompue, pour quelque raison que ce soit, par exemple une fausse couche, les entreprises refusaient de payer les mères porteuses. L'enquête a conclu qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'un schéma commercial élaboré au niveau national et international. Les coupables de ces crimes sont en premier lieu les acteurs de ce marché lucratif, bien sûr. On estime que le marché mondial de la maternité de substitution représentait 14 milliards $ en 2022, quasiment 18 milliards $ en 2023 et qu'il pourrait atteindre 139 milliards $ en 2032. Mais les commanditaires sont également coupables, qu'ils en soient conscients ou non. Les bonnes intentions qu'ils nourrissent à l'égard de l'enfant ne changent pas la réalité que la GPA fait de l'enfant l'objet d'un contrat. Alors cette reconnaissance d'une interdiction du trafic lié à la GPA dans l'Union européenne constitue une étape décisive pour obtenir son interdiction en Europe et au niveau international. L'Europe fait ainsi figure de pionnière dans la ligne de la déclaration de Casablanca en mars 2023, qui appelle à une proposition de convention internationale pour l'abolition universelle de la GPA. Déjà le 16 octobre dernier, le Sénat italien a adopté une loi visant à réprimer pénalement le recours à la gestation pour autrui, y compris si elle a lieu à l'étranger, dans un pays où elle est légale. En France, une contradiction de fond demeure. La GPA reste interdite, mais dans certaines conditions, la transcription de liens de fausse filiation obtenus par des GPA à l'étranger peuvent se faire au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais l'intérêt supérieur de l'enfant n'est-il pas de ne jamais être l'objet d'un contrat pour sa naissance? Pour Alliance Vita, cette pratique reste contraire à l'intérêt de l'enfant puisqu'elle organise son abandon dans un contrat avant même sa conception. Par ailleurs, la fiction de filiation établie par un jugement ne peut masquer les réalités incontestables d'une maternité éclatée. Une femme a procuré son ovocyte, une autre a porté cet enfant pendant 9 mois. Il convient donc de prendre au sérieux la gestation par autrui pour ce qu'elle est, une forme de traite des êtres humains. Un encadrement ou une régulation ne seront pas suffisants. L'interdiction de la GPA au niveau international est la seule voie vraiment éthique. À bientôt, merci de votre attention.
Retrouvez toute l'actualité d'Alliance Vita sur le site alliancevita.org.